franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La Fox et le cinéma américain.
You're more lovely, more radiant than a morning in June.
Oh, Monsieur Léon, I must be dreaming. You are sorrow.
I needed that scratch to awaken me.
Hollywood, c'est l'autre religion de l'Amérique avec ses stars. D'entendre Tyrone Power dans Zorro, ces stars qui sont un peu comme des dieux. Hollywood, c'est une religion polythéiste. Ses serviteurs font vœu de stabilité, ils sont attachés au studio comme des galériens à leur banc. Les cinq majors, dont la Fox, surutilisent le stock de talents dont elles disposent, qu'elles se réservent le droit de placer sur leurs projets comme elles l'entendent. Le souci est d'augmenter l'efficacité en amont et la pratique. En aval, 2 séances par semaine. Dans les années 20, c'est la moyenne à maintenir dans les familles américaines. Hors frontières, les autres pays sont invités à partager la même foi. En France, toujours dans les mêmes années 1920, 70% des films projetés sont américains. Hollywood, à l'époque, c'est une part du PIB américain modeste, mais l'assurance de pouvoir partager un système de croyances avec le vaste monde. Marc Mously, bonjour.
Bonjour.
Le mensuel Alternative économique consacre une bonne place à l'histoire, et nous, à la marche de l'histoire, on voudrait consacrer une place juste à l'économie. Vous aviez déjà fait toute une série de papiers, ils sont repris dans les grandes figures du management et alternatives économiques sur les grands chefs d'entreprise, et maintenant vous allez étudier des entreprises.
Voilà, c'est ça, oui. Des entreprises et des entreprises plutôt marquantes, celles qui laissent un nom, celles qui marquent les esprits, celles qui ont une dimension qui est souvent supérieure au siècle.
Les canaux, par exemple, et la Fox, c'est le cas.
La Fox, d'une certaine façon, oui, avec des avatars, mais, si j'ose dire. Mais j'ai étudié comme ça le groupe Mars, par exemple, ou BlackBerry, qui est un peu en chute en ce moment.
La Fox est-elle en chute, mais l'Empire réussit toujours à contre-attaquer
Hollywood. Fox n'est pas en chute.
Elle a peut-être à peu près un siècle d'existence. On va commencer avec le premier fondateur qui s'appelle William Fox. Quand on fait l'histoire du cinéma américain, c'est toujours une histoire d'immigration.
Oui, et là plus que jamais, puisque toutes les grandes majors du cinéma américain à Hollywood seront à l'époque dirigées par des immigrés. Alors William Fox était né en Hongrie, c'était une famille une famille juive hongroise. Et il est arrivé à New York City dans son berceau, très très jeune. Son père était carrément un bon à rien, quoi, feignant, insouciant, etc. William a commencé à travailler très jeune, très jeune. Enfin, pour l'époque, c'était à peu près normal dans ces familles-là, à 8
11 ans.
À
8 ans, oui, 8 ans. D'accord.
Et à 11 ans, c'était lui qui faisait vivre la famille. À 13 ans, il avait une bonne place dans une maison de confection. Et quelques années plus tard, il avait 21 ans, il crée sa propre boîte.
Alors comment ça fonctionne, ce circuit de tout petits films, presque en libre-service, qu'il met en place?
Voilà. Alors, il s'est aperçu que les petites salles de spectacle qu'on appelait de différents noms, mais pour lui, ça va être les Nickelodeon, avaient beaucoup de succès. Alors, c'était assez compréhensible, parce qu'il vivait dans des milieux où il y avait énormément d'immigrés. Le théâtre était très cher, et en plus, il était en anglais. Tandis que là, il y avait des spectacles qui pouvaient être des spectacles des jeux, des spectacles de prestigitation, etc. Et les premiers films, oui, qui étaient des films muets.
Oui. Et alors, on les voyait dans les cabines?
Alors, au début, au tout début, oui. Mais quand Fox s'est intéressé à ça, c'était quand même dans des salles. Alors, c'était des salles, pour des raisons de sécurité, il avait pris une petite salle, parce que au-dessus de 300 places, il fallait un pompier, etc. Donc, des petites salles où on projetait, en fait, des films.
C'est une histoire d'immigration, le cinéma américain. Vous dites aussi, c'est une histoire de migration, parce qu'en 14-15, on voit tout le système de New York, celui auquel il participe, que vous commenciez à décrire, migrer vers la Californie.
Oui. Alors, au départ, le lieu principal du cinéma, c'était en fait Chicago. Mais bon, il y avait des gens comme Fox qui travaillaient à New York et dans New Jersey. Et puis, des gens de Chicago, d'ailleurs, sont partis à Los Angeles. La Californie avait beaucoup d'avantages, en particulier son climat. Quand on tournait à l'extérieur, on pouvait tourner toute l'année. Des prix sur le plan immobilier qui étaient très bas et des salaires qui étaient beaucoup plus bas qu'à New York et pas de syndicats.
Alors, en Californie, au moment d'ailleurs où s'arrête l'importation des films européens qui est touchée par la guerre, la production peut être plus efficace dans des studios qui sont extrêmement régulés. Rationalisation, vous diriez presque fordisme au cinéma.
Taylorisme, carrément, oui. Ouais. Oui. Oui. Alors, le cinéma américain a cette particularité d'avoir, du moins à cette époque-là, et encore très longtemps, et encore aujourd'hui beaucoup, été conçu comme une industrie, vraiment une industrie. Et dans les studios qu'installent les Fox et autres, le travail est fragmenté, chacun a son boulot, le scénariste fait les scénarios, les techniciens font les différents travaux du tournage.
Et les stars elles-mêmes, parce qu'on va construire autour des têtes d'affiche une fidélisation du public, sont comme des esclaves, même si elles sont presque toujours des femmes à l'époque, glorieusement payées. La figure tutélaire pour la Fox, dites-vous, c'est Feda Barra, qu'on entend ici beaucoup plus tard en 1936.
Nous devions traduire toutes les émotions par la pantomime. Vous trouvez que c'est difficile aujourd'hui. Mais souvenez-vous du mal que nous avions à être interrompus par les cartons de texte. Nous devions exprimer la jalousie, la haine, l'amour ou la dévotion, tout cela par la pantomime. Et en même temps, il fallait garder le rythme. Et le réalisateur nous guidait en comptant. 1, 2, 3, 4, comme le métronome guide le pianiste.
On tourne ! Ok, Lina, tu le hais, tu lui résistes. Soutenez la musique d'ambiance ! Ok, maintenant Pierre, non, continue à tourner. Maintenant tu l'aperçois Pierre, c'est ça, maintenant Albert. C'est la scène où tu reçois un crochet au menton. C'était magnifique.
Mais c'est trop aimable. Nous travaillons affreusement dur pour ces films. Par exemple, pour faire Cléopâtre, nous n'avions pas de service de documentation au studio. Alors j'ai travaillé moi-même plusieurs mois avec un spécialiste d'égyptologie au Metropolitan Museum de New York.
Mais je croyais à lire toutes les histoires qui étaient fabriquées sur son compte, le compte de Feda Barra, qu'elle était égyptienne.
Non, en fait, elle était tout à fait américaine, d'une famille juive de petite bourgeoisie. C'était une excellente élève au lycée, au high school. Et elle avait fait des études de comédienne. Une femme très sérieuse qui a dû passer 35 ans avec le même mari.
Oui, mais on l'a construit autour d'elle. L'histoire d'une vie sentimentale agitée, j'imagine.
Voilà, Fox l'avait transformée en une égyptienne un peu magicienne, avec une vie plus qu'agitée, etc.
Le système de la Fox, comme des autres majors, on peut peut-être donner leur nom, parce que le système des cinq est à peu près établi déjà.
Oui, alors il y avait la MGM, oui, la Warner Brothers, la RKO et la Paramount, hein, plus bien sûr la 20th, enfin par la suite la 20th. Oui.
Alors attendez, avant qu'on en arrive à la 20th Century Fox, restant toujours en compagnie de son premier fondateur, William Fox, il est de ceux qui imaginent un système d'intégration verticale, parce que en amont, on produit, et en aval, des salles dont la compagnie est locataire ou propriétaire doivent forcément passer les films produits.
Alors, en fait, quand vous dites qu'il conçoit, Fox, c'est un type qui fonce et il invente le système en marchant. S'il a fait des films, c'est parce qu'il avait des salles à remplir et qu'il avait des problèmes avec le Trust et Edison qui ne voulaient pas les lui vendre. Et ensuite, il s'aperçoit que la chaîne de valeur, comme dirait Michael Porter, est telle qu'il a intérêt à exploiter, à distribuer plus qu'à produire. Donc, l'intégration vient de là.
La création est une conséquence de l'observation du système économique.
Voilà.
Le passage au parlant va être assuré au temps de William Fox et va ajouter à la fonctionnalité et à la technicité des studios où il y aura des ingénieurs du son et des installations de plus en plus précises. Mais dans le cas de la Fox, il y a une particularité. La Fox dispose d'un système sonore qui lui est propre.
Oui, Movitone.
Alors, Movitone.
La Fox avait imaginé, le premier, hein, parce que c'était un type extrêmement innovant, de faire des actualités. Des actualités filmées. Donc il envoyait des équipes, il avait une cinquantaine d'équipes sur le terrain. Et bien sûr, comme il voulait les passer en parlant, il fallait un système qui soit léger et qui soit efficace. Quoi. Et c'est comme ça qu'il a pris de l'avance sur le système parlant.
Parce que les autres compagnies qui ne faisaient pas d'actualité cinématographique ou moins, avaient un système où il y avait d'un côté l'image, de l'autre côté le son, puis après on cherchait à synchroniser le tout. Tandis que quand on fait des actualités cinématographiques, il vaut mieux avoir tout de suite du son optique. On va entendre, si vous le voulez bien, ça sera notre premier exemple, un moment de Fox News Movitone. Nous sommes en 1927, alors c'est l'époque de Lindbergh.
Oui.
Lindbergh va traverser l'Atlantique. Fox News Movitone est là, au décollage. Lindbergh va revenir auréolé. Fox News Movitone est là quand il est décoré par le président Coolidge. On a un peu oublié le nom du président républicain Coolidge. Ensuite, il y aura un deuxième exemple. Et on va entendre de nouveaux noms, dont celui du successeur de M. Fox.
And as President of the United States, I bestow the Distinguished Flying Cross as a symbol of appreciation for what he is and what he has done upon Colonel Charles A. Lindbergh.
This is Jimmy Fiddler, your Hollywood correspondent of 20th
Century Fox. Ici Jimmy Fiddler, correspondant des actualités Movitone Fox. Tout Hollywood parle aujourd'hui des extraordinaires progrès de la Fox. Les danseuses sont distribuées par Lou Schreiber et Jack Castle, chef chorégraphe. Trois autres scénaristes de talent, Sam Engel, Alan Smith et Milton Sperling. Howard Hawks, dirigeant Frederick March et June Lang. Zanuck et Guts accueillent le grand compositeur Irving Berlin. Force de travail, matière grise star du box-office et une superbe unité de production pour un cinéma de perfection.
Bon, avant que la Fox ne soit triomphale, c'est un son des années 30, là, et que ne s'impose le nom, on l'a deviné, de Zanuck, il y a quand même une période de crise difficile qui va voir disparaître, d'ailleurs, notre ami William Fox, corps et bien, alors qu'il avait un formidable projet, c'était de réunir la MGM, son actionnaire Loves, et sa compagnie.
Voilà, Loves était mort, hein, et William Fox a voulu mettre la main sur la Loews et la MGM. La MGM qui était plus grosse que lui. Donc il s'est lancé dans un montage financier un peu audacieux. Il y avait des résistances de l'autre côté, du côté de la MGM. Et puis il y a eu une coïncidence de fait tout à fait défavorable. D'abord, Fox a eu un accident de voiture. Son chauffeur s'est trompé de route, est rentré dans un camion, etc. Et Fox a été immobilisé donc, pendant plusieurs semaines.
Mais là, vous êtes en train de nous faire un scénario où vous mettez en premier point l'accident de voiture, alors qu'un historien dirait, il y a le crack boursier.
Le crack est arrivé juste après. Quoi.
Ouais.
Et en fait, je pense que même avec le crack boursier, il s'en serait sorti s'il n'y avait pas eu cet accident, parce que c'était un type d'une pugnacité redoutable.
Oui, enfin quand même, 30-32, il y a le tiers des spectateurs qui ne vont plus au cinéma.
Oui, mais je pense qu'il s'en serait sorti quand même, parce que les autres compagnies étaient dans le même état que lui. Hein. Ouais. Donc, et il y avait quand même des banques derrière.
Je vois que vous voulez tout personnaliser, alors vous allez nous dire ensuite que la crise passée, Fox disparu, laissons le récit précis des 3 ou 4 années après 1932 de côté. Il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Daryl Zanuck, et alors qui était scénariste à la Warner, très prolifique, qui s'est fâché avec la Warner, qui crée sa société, et hop, Il va réunir sa petite société et la Fox en difficulté. Et le miracle ?
C'est pas tout à fait un miracle. C'est-à-dire que Zanuck était sur une trajectoire ascendante, alors que la Fox était plutôt sur une trajectoire descendante. La Fox s'était mal remise de ces épisodes de la disparition de William Fox. Et Zanuck avait un talent fantastique pour faire des films, mais il n'avait pas les ressources. Il n'avait pas de studio, il n'avait pas d'artiste d'ailleurs. Donc, il a vu la Fox qui avait des moyens considérables et bien placés, et est venue l'idée de se rapprocher. Bon, ça s'est fait en 1935, dans d'assez bonnes conditions, même si derrière Fox, qui était ruiné à l'époque, hein, essayait d'empêcher ça dans la coulisse.
Mais vous nous présentez une compagnie de cinéma comme s'il n'y avait qu'un seul homme. Il y a un état-major, il n'était que vice-président, Zanuck, et puis il y a des départements spécialisés, les décorateurs, ouais, les opérateurs extérieurs, les effets spéciaux, et tout ça, c'est un organigramme extrêmement compliqué.
C'est un organigramme. Mais tout ça a un côté organisation scientifique du travail, si vous voulez, taylorien. Hein. Et la stratégie, c'est quand même le patron. Hein. Fox faisait la stratégie, Zanuck disait « je veux que tout passe par mes mains ». Et tout passait par ses mains. C'était le directeur de la production et rien ne se faisait sans qu'il donne son aval.
C'est-à-dire que dans son bureau, il y a un type scénariste ou metteur en scène, il est essoré par Zanuck et sa chaise s'appelle le fauteuil de torture.
Pas spécialement, il est à sa place, le scénariste est là pour faire le scénario, ouais. le réalisateur est là pour diriger le tournage, mais le final cut, c'est Zanuck. Ouais.
Je vous ai interrompu quand vous décriviez fonctionnement des studios vu par Jean Renoir.
Jean Renoir est allé là-bas, il était effaré. Ouais. Il était effaré parce qu'il disait, mais ils ont tué l'auteur, il n'existe pas. Jean Renoir n'arrivait pas à comprendre qu'il n'avait même pas la possibilité de finir son film comme il le souhaitait. On lui coupait des scènes, on lui demandait d'en rajouter.
Alors c'est Zanuck qui met l'accent peut-être le plus dans ses années d'avant-guerre sur la couleur. Le son, c'est de l'offre qu'on donne aux spectateurs. La couleur, c'est une réponse qu'on fait à la demande des spectateurs. Et puis, fait aussi, dites-vous, des films plus sociaux. C'est parce que vous écrivez dans Alternative économique, parce que j'étais plutôt quand même républicain et il ne croyait pas à la lutte du capital et du travail.
Il était très préoccupé par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'effet de société. Et il a fait donc un film extrêmement célèbre, Les raisins de la colère. Et si vous connaissez les dessins les photos de Dorothea Lange, une esthétique extraordinairement personnelle à Dorothea Lange, l'esthétique de la misère de l'époque d'ailleurs, hein, vous retrouvez ça dans le film donc de John Ford.
Enfin, vous allez voir Les raisins de la colère. La distribution est choisie parmi les meilleurs artistes de l'écran pour que les personnages inoubliables de John Steinbeck soient animés d'une vie nouvelle. Tom Joad est joué par Henry Fonda. Mans, par John Darwell. Casey, par John Carradine. Grand-père, par Charley Gravin. Rose de Saron, par Doris Bowden. Pas, par Russell Simpson. Al, par Rose Whitehead. Mulet, par John Quallen. Connie, par Eddie Killan. Et maintenant, enfin, vous allez voir Les raisins de la colère, le film qui renferme tout le drame, l'émotion, l'action, les larmes et les rires du roman qui a remué toute une nation.
Alors, on entend une litanie d'acteurs. Henry Fonda est sous contrat avec la Fox, mais il n'a pas de temps d'acteurs dans son écurie. Le cher Zanuck, si, il y a Shirley Temple.
Voilà, au début, quand il est arrivé, il avait une équipe de 72 acteurs, mais aucune vedette, quoi. À part deux vedettes, Shirley Temple et un acteur de 50 ans qui s'est tué en avion aussitôt. D'ailleurs, ensuite Zanuck interdisait à ses acteurs de prendre l'avion. Et surtout, il y avait Shirley Temple. Shirley Temple, qui elle, a commencé sa carrière, on n'ose pas dire quand, vers 3 ans à peu près, hein, et a eu un vrai rôle à partir de 5 ans à peu près.
Mais à partir de 11 ans, je reprends les catégories que vous donniez au début de l'émission, ça n'a plus été pour elle le zénith. C'était déjà plus le zénith pendant les années 40. Bon, pendant la guerre. Voilà. La Fox joue son rôle patriotique, Zanuck s'engage. Il va faire pas mal de cinéma sous l'uniforme, d'ailleurs.
Oui, oui, il fait des films pour l'armée. Oui.
Mais je vous propose qu'on écoute la musique du premier des films d'après-guerre. Il a repris son poste, non sans difficulté. Il a laissé la possibilité à Preminger de choisir la fin de Laura. C'est l'histoire d'un journaliste de radio qui raconte comment il était amoureux, mais amoureux malheureux, bien évidemment, d'une jeune publicitaire qui vient d'être assassiné.
You have rarely met a girl like Laura. Few women have been so beautiful, so exotic, so dangerous to know.
You're Laura Hunt, aren't you?
Yes.
I'm Shelby Carpenter. Want to dance?
I'm not alone.
Every woman will feel that when it comes to men, Laura gets by with murder. Every man will feel that when it comes to murder, it couldn't involve a more enticing girl.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La musique enveloppante de David Raxine, le premier vrai film de Preminger, Laura. Et nous parlons aujourd'hui de la Fox dans le cinéma américain, à l'occasion du début de la série dans Alternative économique de décembre consacrée à l'histoire des grandes entreprises. Un article de Marc Mousli qui est notre invité. L'après-guerre, ça va être un très, 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 très grand changement. Parce qu'en 1948, le système d'intégration verticale, production, distribution, exploitation, va être brisé.
Oui, des lois antitrust obligent les studios à se séparer de leur système d'exhibition, de leur salle. Quoi. Alors, ça change tout, quoi, puisque les studios vont produire moins de films. Ils vont les faire plus cher. Et toute l'économie du cinéma à ce moment-là est changée. Et pas seulement l'économie, quoi. L'ambiance, les façons de travailler, etc.
D'autant que les salles des centres-villes risquent d'être vidées par le déplacement des populations aisées vers les périphéries. Et que dans leurs maisons, les Américains vont disposer très vite d'un poste de télévision individuel. 90% des foyers vont être équipés à la fin des années 50 d'un poste de télé.
Oui, alors il y a ce qu'on a appelé le Y-Flight, hein, c'est-à-dire les classes moyennes qui vont s'installer dans des maisons de banlieue, hein, beaucoup plus confortables, où ils peuvent élever leurs enfants. Et la télévision qui arrive et qui va faire très très mal au départ au studio.
Alors la réplique de notre ami Zanuck, le vice-président et en fait patron de la Fox, c'est de faire des formats plus grand, plus large, plus spectaculaire, le cinémascope emprunté à un vieux procédé français des années 20, celui d'Henri Chrétien.
Dans son laboratoire niçois, le chercheur en optique Henri Chrétien présente l'objectif anamorphose du cinémascope, une avancée révolutionnaire. Le cinémascope offre des images deux fois et demi plus grandes avec l'illusion de la troisième dimension pour le plaisir de tous. En faisant cette acquisition, la Fox réoriente sa technique et lance en production la tunique de Lloyd C. Douglas en cinémascope.
Cinemascope.
La tunique, tirée d'un des plus grands romans de tous les temps, la plus spectaculaire histoire d'amour, de dévotion, de foi, jamais portée sur les écrans par le miracle du cinémascope. Toute sa puissance, son drame, sa vision, sa magnificence. Vous en voyez plus, car il y en a plus à voir dans le film.
Le destin de la tunique après la crucifixion, c'est pas parce que l'écran est plus large que le film est nécessairement plus profond. Alors le cinémascope va finir par avoir du succès comme les autres procédés, Panavision, Cinérama, etc. Mais on va finir avec le dernier moment de la vie de Zanuck que vous racontez. Marc Musli, il décide de s'autonomiser, il quitte sa femme, il quitte sa maîtresse, il part en Europe.
Alors en fait, Zanuck était victime de ce qu'on appellera aujourd'hui un burn-out. Il était épuisé. Il avait 25 ans de travail dans les pattes, une vie privée extrêmement agitée. Et en 61, il laisse les clés à son fils, Richard, et il part en Europe.
Et alors, il va devenir un producteur, non pas indépendant, parce qu'il est toujours actionnaire de la Fox, mais qui apporte des projets.
Oui, alors c'est la formule d'ailleurs de l'indépendant, hein, le mot indépendant et de mise à cette époque-là. Hein. Et là, le producteur indépendant, bah, il n'est plus enserré dans le carcan du studio. Hein. Il construit, il a une idée, il fait son film, enfin il construit son film hein, et il va le faire par le studio éventuellement, trouver de l'argent. Mais il a par rapport au studio une autonomie complète, il n'est plus enserré dans un réseau de stratégies, de distribution.
Et la Fox, au fond, c'est maintenant quelqu'un qui apporte des moyens, de la logistique, voilà. À un projet d'un producteur voilà. Indépendant. Plus tard, ce sont des projets d'agents. Alors, voilà. L'association avec Gréco, parce qu'il s'est associé un moment avec Juliette Gréco, c'est pas ça qui marche le mieux, parce qu'elle regimbe, renacle, s'en va, mais le grand projet réussi, celui auquel il s'est le plus attaché de sa vie, c'est le jour le plus long.
Regardez le paysage, messieurs.
Comme c'est paisible, comme c'est tranquille.
Un petit bras de mer entre l'Angleterre et le continent.
Mais derrière cet horizon paisible,
un énorme dispositif fait d'hommes, de navires et d'avions.
Une masse prête à être lâchée sur le continent. Mais messieurs, pas un seul anglo-américain ne devra atteindre le rivage.
Vous pouvez m'en croire, messieurs, les premières 24 heures de l'invasion seront décisives.
Aussi bien pour les alliés que pour les forces allemandes, ce sera le jour le plus long.
Le jour le plus long.
Quand il reprend en main la Fox, en fait, ça va être une période, sauf celle de la mélodie du malheur, une parenthèse heureuse, ça va être une période de désarroi pour Hollywood. Ouais,
quand il reprend la Fox, c'est parce qu'ils sont enlisés dans le Cléopâtre, là, qui va leur coûter 42 millions de dollars.
C'est une catastrophe rapporter que la moitié.
Voilà, une catastrophe absolue. Donc, Zanuck reprend... Mais jamais il ne réussira à retrouver un rythme, c'est-à-dire à avoir dans une année suffisamment de films qui marchent pour compenser ceux qui ne marchent pas, qui étaient la norme hein, dans les années antérieures.
1971, Zanuck s'en va, on vous abandonne aussi, Marc Musli, la suite du dossier dans Alternative économique de décembre, et puis d'autres cycles s'ouvriront pour Hollywood qui ne dort jamais. Jacques Sigal, Patrick Henry, Sophie Moreno, Franck Olivar pour la préparation de la marche de l'histoire qui demain parlera du spiritisme. Encore les sœurs Fox, toujours le nom de Fox.